Vous êtes sur RTL. Parole. Pascal Pro sur RTL.
Retour à Jean-Marie qui habite dans les Charentes-Maritimes. Vous êtes où, Jean-Marie ?
À Rochefort, exactement.
Rochefort ?
Oui.
Mademoiselle de Rochefort. Alors ça, c'est une chanson qui donne la pêche, pour le coup, Rochefort.
N'est-ce pas ?
Merveilleux. Donc, comment ça s'est passé, votre parcours du combattant ? Racontez-nous.
Comme je disais tout à l'heure, au départ, ça a été une véritable pétodière, puisque dès mercredi, il était impossible d'accéder à santé.fr. En fin de matinée, on a eu un message nous disant qu'il fallait reporter ça au lendemain. Et le lendemain, comme tout le monde s'est précipité, impossible d'y arriver. Donc, ayant quelques menues compétences en matière d'utilisation de l'informatique, j'ai réfléchi à la logique en disant si je me connectais sur le site de...
Jean-Marie, on a un petit souci parce que le son n'est pas extraordinaire. Donc on va essayer de sécuriser la ligne et en attendant, nous sommes avec Christine et on est sur la même question, même si Christine n'a pas 75 ans. Donc bonjour Christine.
Bonjour Pascal, merci de prendre mon appel.
Vous êtes un peu plus jeune.
Oui, effectivement, je suis un peu plus jeune, mais malheureusement, je rentre dans les cas à risque puisque j'ai une maladie hématologique évolutive. Et le professeur qui me suit, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, m'a conseillé effectivement de me faire vacciner. Donc samedi, je me suis mis sur le site santé.fr pour m'inscrire et j'ai passé une heure à peu près jusqu'à minuit. J'ai tourné en rond, ça a été une vraie galère et impossible de m'inscrire. Donc j'ai pris mon mal en patience. Le lendemain matin à 7h30, je me suis reconnectée et impossible de m'inscrire. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver des créneaux et une fois que vous validez vos créneaux, eh bien on vous dit que ces créneaux ont été pris. Donc de choisir d'autres créneaux. Ce qui est paradoxal, c'est que les créneaux que j'avais pris m'étaient reproposés, d'ailleurs la fois suivante, et que les créneaux proposés étaient que jusqu'en janvier, il n'y a aucun créneau en février et en mars, sauf pour la deuxième vaccination. J'ai réessayé ce matin plusieurs fois sur Doctolib, et là, sur tous les sites de Lyon, aucun créneau ne sont disponibles. Donc je voulais effectivement témoigner. Ce que je trouve paradoxal, c'est ce que je disais à la personne qui m'a pris au standard tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a le discours il faut absolument se faire vacciner, et on va s'en sortir par le vaccin, etc. Ce que je conçois parfaitement, puisque je suis moi-même de formation pharmacienne, donc je suis quand même pro-vaccin. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi derrière, si vous voulez, on ne met pas en place des choses qui puissent fonctionner et permettre à tout le monde de s'inscrire et de se faire vacciner. Voilà, Pascal, mon témoignage. Je ne suis pas en rage, mais je suis un peu perplexe, voyez-vous, parce que il y a un petit peu quand même de discours et j'arrive pas à comprendre que derrière on n'arrive pas à suivre, si vous voulez, le discours qui est mis en place.
Christine, je vous ai pas interrompu, c'est assez rare,
non,
diront certains, mais
oui,
mais parce qu'en fait c'est édifiant. Il y a rien à dire, c'est consternant.
C'est consternant
qu'on ne puisse pas mettre en place un système. Alors je sais bien que tout le monde appelle sans doute en même temps ou se connecte en même temps. Mais on n'entend que ça depuis 48 heures, donc c'est inquiétant en plus d'être consternant. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Jean-Marie ? Est-ce que la liaison est meilleure avec Jean-Marie qu'elle ne l'était tout de suite ? Jean-Marie ?
Pascal, il semble que ça soit meilleur. Mais
je pense que c'est meilleur, effectivement. Alors, parcours du combattant, Christine. Donc, Christine, on précise que pour le moment, vous n'avez toujours pas donc de rendez-vous.
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout.
Bon, votre médecin traitant, il peut faire accélérer les choses peut-être ou comme
pas
vous,
du tout.
Vous avez une maladie.
Non, pas du tout. J'ai rappelé ce matin le professeur qui me suit pour ma maladie et j'ai demandé est-ce que comme le centre où je me fais suivre est centre de vaccination, j'ai demandé est-ce que je pouvais passer par lui de façon à pouvoir accélérer les choses. On m'a dit non, il faut passer par le site santé.fr ou Doctolib.
Bon.
Donc voilà, le médecin traitant ou le professeur qui me suit ne peuvent me faire qu'une ordonnance pour prouver que effectivement je rentre dans ce cadre prioritaire, si je puis dire.
Bon,
voilà.
Merci Christine, restez avec nous. Jean-Marie, on va vous retrouver après la pub si vous voulez bien.
Ok.
Je salue Damien Béchiot qui était là. Non, c'est Greg Caranoni qui est là aujourd'hui. Bonjour Greg.
On est là tous les deux, à vrai dire.
Vous êtes là tous les deux. Alors, c'est le Blue Monday, c'est ça?
Oui.
Et si vous pouviez nous mettre des musiques un peu entraînantes, pourquoi pas, aujourd'hui, pour nous remonter le moral. Ah. Et je pense qu'on essaiera d'appeler l'excellent Raphaël Mizrahi aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 14h30, je vous le rappelle.
Pour sa nuit de la déprime.
Pour sa nuit de la déprime, là, c'est l'année de la déprime. Il pourrait peut-être faire l'année de la déprime. Et puis, si vous pouvez nous trouver des petites chansons, j'en sais pas, qui nous mettent.
Bah, on parlait de Rochefort et de Demoiselle de Rochefort.
Ah, oui.
Vous voulez la chanson des sœurs jumelles?
Exceptionnel, allons-y.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi.
Jean-Marie est de Rochefort. Rochefort en terre.
Non.
Rochefort en mer.
En mer, si vous le souhaitez. Mais tout proche de la mer, avec bien sûr l'Hermione. N'oublions pas l'Hermione.
Bien sûr. Et vous étiez à Rochefort lorsque les demoiselles ont été tournées dans les années 60?
Ah non.
Vous n'étiez pas encore là?
Non.
Bon, la pub, à tout de suite avec Jean-Marie qui nous parle de sa difficulté à s'inscrire.
Toute sa vie des frites, nous sommes toutes données de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier de retour le lundi. Laurent, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est aujourd'hui l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans et à celles qui présentent des pathologies à haut risque. Georgie, 82 ans, s'est fait vacciner ce matin.
Je n'ai absolument rien senti. On verra par la suite, mais pour l'instant, tout se passe bien.
Mais avez-vous des difficultés pour prendre un rendez-vous comme Yvette, 77 ans?
J'ai pas internet, monsieur, comme beaucoup de gens de mon âge, et on est coincé. Téléphone est saturé, on répond pas.
Pas de souci, au contraire, pour Bernadette, c'est ce qu'elle nous dit sur la page Facebook de l'émission. Ce fut relativement facile la semaine dernière pour mon mari et moi dès l'ouverture de la plateforme de prise de rendez-vous. Mais 30 minutes de lutte acharnée ce matin pour inscrire ma mère, 87 ans. Il ne faut rien lâcher. Coup de gueule de Philippe sur les vaccins, je dépends d'un centre. En Vendée, ils ont reçu 48 doses pour 2 jours. Vive la logistique. Et pour Eric, au rythme où l'on va, quelqu'un a-t-il un tuto, vous savez, pour faire son vaccin tout seul, hein, on ne sait jamais.
Un tuto?
Oui.
Jean-Marie, donc, en Charente. Jean-Marie, oui. Je rappelle que vous étiez là dès 13h et que vous avez eu des difficultés à vous inscrire pour vous faire vacciner. Racontez-nous.
Oui, dès mercredi, ça a été une véritable pétaudière parce que, bien sûr, le site santé.fr ne fonctionnait pas. On a dû attendre dans la fin de la matinée pour apprendre qu'il fallait reporter ça au lendemain. Donc, le lendemain matin, dès 8h, j'ai essayé de me connecter. Toujours impossible. On avait la réponse que le site était saturé. Heureusement, je pratique un petit peu Internet. Je me suis dit, tiens, au fait, si j'allais essayer de me connecter sur Doctolib, et donc Doctolib, même problème. Et puis, j'ai eu la réflexion de me connecter avec mes identifiants de Doctolib. Et là, miracle, ça s'est débloqué. J'ai enfin réussi à prendre un rendez-vous pour le milieu de cette semaine. Mais enfin, ça a été vraiment la croix et la bannière. Comme
ça, c'est pas mal quand même, si vous l'avez eu en 2 jours.
Oui, en 2 jours, mais en combien d'heures passées sur Internet?
Combien d'heures vous avez passé?
Oh, je sais pas, au moins 5 ou 6 heures sur Internet pour arriver à obtenir quelque chose, quoi.
C'est vrai que ça pourrait être plus rapide, mais ce qui est important quand même dans votre témoignage, c'est que vous avez le rendez-vous. Alors, quand est-ce que vous y allez?
Alors, j'ai rendez-vous mercredi.
Mercredi. Et vous avez passé 75 ans, vous n'êtes pas particulièrement à risque?
En plus, j'ai plus de 75 ans et j'ai 2 pathologies assez graves, donc j'avais hâte de pouvoir me faire vacciner. J'avais quelques inquiétudes. Mais je reviens au système d'inscription sur le site. Je crois qu'il aurait été beaucoup plus simple de faire un tuto, excusez-moi d'employer des termes un peu techniques, mais on a vu des inscriptions, tout au moins des pages entières qui est indiquée. Il était très facile de dire qu'il fallait s'inscrire sur Doctolib ou sur un des autres sites, de créer le compte ou de se connecter avec son compte, et ensuite on arrivait directement sur la page d'inscription.
Bah, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va appeler. On va appeler. Je pense que si j'appelle comme ça et que je mets le haut-parleur avec mon téléphone, on va pouvoir entendre. On va appeler, on va essayer de joindre pour voir si ça marche. Le code postal de Neuilly, c'est 92, donc on va appeler. Restez avec nous, Jean-Marie, on appelle Arlette pour le moment, qui habite en Gironde. Bonjour, oui. Arlette.
Bonjour Pascal. Bonjour à tout le monde.
Eh ben merci d'être avec nous. Et je rappelle que notre thème, c'est est-ce que vous avez des difficultés pour obtenir un rendez-vous?
Ah là, c'est affreux. Depuis que ça a commencé, d'abord, je n'ai pas Internet. Je n'ai que le téléphone. Donc j'ai passé ma journée entière. À 8h, je fais le guet pour l'heure, j'appelle. Impossible. Pour le CHU de Bordeaux, rien du tout. Les hôpitaux aux alentours où on communique les avis.
Mais le numéro là, avec le, que je vais appeler moi tout à l'heure, le 0800, c'est
ah
le...
Ah non, alors là, c'est affreux. Ça, alors, ça,
le 0800-009-110, celui-là, il marche pas?
Non, du tout, monsieur. Du tout, Pascal. Du tout.
Mais pourquoi il marche pas?
Ah, je sais pas, ça vous répond, tous nos confrères sont occupés, voilà. Non, et même sur Bordeaux on a le...
Alors on va l'appeler, ce numéro avec Greg Carnet. Le problème, Greg, c'est qu'on va vous demander sans doute le numéro...
Bienvenue sur le service d'aide à la prise de rendez-vous.
Voilà,
pour la
mais on va vous demander sans doute sur ce numéro...
Conformément à la stratégie vaccinale en vigueur.
Est-ce que vous allez pouvoir appeler,
oui,
faire pourrais. 92, vous pourrez?
Je pourrais, bien sûr.
Alors tenez Arlette, on essaye.
Plus de 50 ans, oui.
On est en direct, vous voyez, 13h15.
Oui, parce que même... La COVID-19. Oui, parce que mon mari a 80 ans, moi j'en ai 78.
Oui.
Et puis mon mari est à risque, moi aussi. Voilà. Diabète, etc. Donc voilà, le cardiologue ne peut pas le faire. Hein. On nous l'a demandé, il ne peut pas le faire. C'est à nous à nous débrouiller. Je vous dis, c'est infernal. Impossible, impossible.
Bon, donc là, pour le moment, vous n'avez toujours pas de rendez-vous?
Ah non, Pascal, pas du tout, aucun rendez-vous.
Alors écoutons, parce qu'on est en train d'appeler, on va voir si ça marche, nous. On va voir.
Merci.
On a fait le, avec le 0800. Est-ce que ça marche, oui. Greg Carnet?
Pour l'instant, nous sommes dans l'attente. Hein. La connexion est établie, mais il ne se passe pas grand-chose.
Oui,
mais là, il y a quoi dans l'attente? Qu'est-ce qu'on a?
Bah, selon, il n'y a rien.
Ben oui, parce que vous n'avez pas le 92. Vous ne pourrez pas, si vous ne pouvez pas avec ces numéros, avec vos téléphones, vous ne pouvez pas faire le chiffre. C'est pour ça que c'est mieux avec un portable. Mais Arlette, terminé.
Oui, pardon.
Je dis à Arlette, terminez votre témoignage.
Ben voilà.
Parce que vous êtes inquiète, j'imagine, c'est pour vous et votre mari.
Sûr. Ah ben c'est sûr, parce que je vous dis, on a qu'un petit téléphone, on n'a pas Internet, on n'a pas les moyens de payer une redevance, ainsi soit-il, quoi. Voilà tout ce qu'on a. Donc je vous dis, on a un important CHU à Bordeaux, ça répond pas. Ou alors on nous met en attente et au bout d'un moment, attendez, on va vous décrocher. Au bout d'un moment, crac, ça raccroche, connexion impossible, tout ça, voilà.
Mais si vous allez sur place au rendez-vous de lieu de vaccination, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'envoie un petit message qui s'appelle Bernard Renaud, qui longtemps a été à TF1 pour tout vous dire, et il dit, faites comme moi, rendez-vous au lieu de vaccination et prenez rendez-vous sur place, c'est ce que j'ai fait.
Eh bien alors là, je vais vous dire, Pascal, c'est qu'il nous le décommande sur le journal. Il nous le décommande sur le journal de ne pas venir prendre sur place, de prendre par téléphone. Moi aussi, j'y ai pensé. Je pouvais y aller. Et voilà, ils ne veulent pas sur place.
Alors, je crois qu'on a rétabli la ligne avec la possibilité de prendre un rendez-vous.
Un opérateur va prendre votre appel.
Ah, un opérateur va prendre mon appel.
Oui, bien alors, bonjour, si vous voulez faire... Oui.
Écoutons deux secondes, Arlette. Écoutons, le petit disque.
Nous vous remercions de bien vouloir renouveler votre appel.
Ah ben voilà.
Bienvenue sur le numéro vert de vaccination de Neuilly-sur-Seine. Tous nos opérateurs sont actuellement en ligne.
Voilà.
La vaccination est actuellement réservée aux personnes de plus de 60
ans. Voilà, tous les opérateurs sont en ligne, voilà. Donc à Neuilly-sur-Seine, à 13h17. C'est simple, hein, la radio. On a juste à vérifier.
Comment
allez faire, Arlette?
J'en sais rien, Pascal. Je ne sais pas. J'attends. Je vais passer ma vie au téléphone. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire.
Ça, c'est quand même pas normal. Écoutez, franchement.
Ah non, je vous dis, le CHU de Bordeaux, niette. L'hôpital suburbain, il y a un hôpital suburbain au Bouscat, niette. Et là, ils mettent sur le journal de pas venir sur place, de téléphoner. Ah là, il le mentionne sur tous les azimuts.
Bon, ben merci. Alors, même témoignage pour Christine, pour Jean-Marie, pour Arlette. Alors, oui, Jean-Marie a eu un rendez-vous quand même. Christine ne l'a pas. Arlette ne l'a pas. Mais c'est... Si on n'est pas capable en France de mettre en place une logistique pour que les personnes en plus âgées, qui n'ont évidemment pas toujours Internet, ce sont les gens les plus fragilisés parfois par la technique ou la technologie, on n'est pas capable de faire ça. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas les doses, une fois on n'a pas les masques, maintenant on ne peut pas joindre les services, c'est compliqué quoi.
Pascal, excusez-moi.
Je vous en prie, Jean-Marie.
On se rend compte d'un truc, c'est que lorsque l'État veut vraiment faire quelque chose, il y arrive. L'exemple, c'est Bercy. Bercy, le jour où il a fallu mettre les impôts mensualisés, ça s'est passé les doigts dans le nez. Les relations Internet avec Bercy, ça se passe les doigts dans le nez. Par contre, dès qu'on est dans d'autres administrations, c'est la pétaudière, j'allais employer un mot grossier, excusez-moi, c'est le bordel, on n'y arrive pas. Il y a vraiment à se poser des questions dans ce pays, qu'est-ce qui va fonctionner et quand est-ce que ça va fonctionner?
Ben merci Jean-Marie, Christine, Arlette. Merci à tous les trois. On va prolonger notre ciel bleu avec ces chansons qui nous donnent le moral parce que c'est le Blue Monday. Vous savez que le Blue Monday, alors c'est un truc un peu, j'allais dire c'est un truc bidon. Ça n'existait pas il y a 25 ans. C'est l'histoire de faire parler. Mais alors paraît-il que le troisième lundi du mois de janvier serait la journée la plus déprimante de l'année. Bon,
vous êtes ronchon quand même, hein.
Vous trouvez que je suis ronchon?
Bah, vous êtes un peu ronchon. Ouais.
Ah mince.
C'est-à-dire que la déprime vous déprime encore plus.
Non, mais vous avez raison, je suis un peu ronchon. C'est ce que me disait mon ami Philippe Ray tout à l'heure dans son bureau, le directeur de la rédaction. Il me disait t'es un peu ronchon.
On ne s'est pas parlé avec Philippe. Hein.
Bah, oui,
en revanche, je peux essayer de faire quelque chose pour vous donner un peu plus le moral.
Là, je vais bien. Là, je m'imagine en boîte de nuit. Là, je danse avec des gens. Je vais au restaurant avant. C'est ce monde d'avant qu'on avait.
Bougez pas trop pour pas vous faire mal non plus. Hein.
Est-ce que vous pensez que les restaurants seront ouverts en 2021?
On espère.
Bah, écoutez, j'ai entendu M. Fontanet hier avec Benjamin Sportouche. Je suis sûr. À la fin, j'étais pas rassuré. Hein, qui est dans le conseil scientifique, M. Fontanet. L'impression qu'on est bouclé jusque toute l'année 2021.
Du coup, le concept, en fait, c'est de dire des choses déprimantes sur des chansons qui donnent la pêche. C'est ça, votre idée.
13h21. On va appeler Raphaël Misery, j'ai dit. À tout à l'heure.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bon, évidemment, on pourra parler d'autre chose si vous le souhaitez, que le Covid. On pourra ainsi parler de l'inceste. Des milliers de personnes victimes d'inceste témoignent sur le réseau social Twitter depuis samedi avec le hashtag MeTooInceste. Et je le disais tout à l'heure, c'est terrifiant. Une personne sur 10 en France aurait subi un crime d'inceste. C'est-à-dire que c'est plus de 6 millions de personnes en France. Donc évidemment, ça, c'est un chiffre qui est effrayant. On pourra également parler de l'amendement déposé par les deux députés qui visait à interdire le port de tout signe religieux ostensible par les mineurs dans l'espace public. Ça, c'était l'amendement de la députée de La République En Marche, Aurore Berger, et il a été rejeté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. On est avec Yves, qui habite Valenciennes. Bonjour Yves, vous avez 72 ans.
Tout à fait, bientôt.
Bon, et vous avez pris rendez-vous pour votre père qui en a 98.
Tout à fait.
Bon, comment vous avez fait?
Alors, ben, je voudrais peut-être amener une note d'optimisme, parce que pour moi, ça s'est très bien passé. Hein. Jeudi, j'ai appelé directement le centre de vaccination de la Rougeville à Saint-Saulve, qui m'a tout de suite donné un rendez-vous pour le lundi 18, donc ce jour. Rendez-vous à 14h45, donc je vais accompagner mon papa dans une petite heure pour se faire vacciner.
Mais votre père, il est en EHPAD ou il vit seul?
Alors il est dans ce qu'on appelle un foyer pour personnes âgées.
Oui, donc il y a risque, il rencontre des gens, quoi.
Ça c'est. Alors, foyer qui contrairement à un EHPAD, ne gère pas la vaccination des personnes qu'ils ont sur place.
Mais j'entendais ce matin Alain Fischer avec Alba Ventura. Votre père, il n'a pas de comorbidité ou il n'a pas de maladie en parallèle de son grand âge?
Non, c'est les questions qu'on m'a posées d'ailleurs quand je l'ai inscrit. Il n'y a rien de particulier pour de son côté. Hein. Rien lui interdisant de se faire vacciner.
Et il est dans un bon état psychique, moral, mental, votre père?
Ben, il était demandeur, hein, donc je veux dire, on obéit. Hein, c'est un ancien gendarme, hein, donc on obéit. Et pour la petite histoire, je crois que la dernière fois qu'il s'est fait vacciner, ça devait être en 1949, avant de partir en Indochine. Vous voyez, donc
il a donc 98 ans, donc il est né en 22.
Tout à fait,
oui. Oui, donc il va aller jusqu'à 100 ans alors une fois qu'il sera vacciné.
Pourquoi pas, hein. On l'espère, hein, on fait tout pour. Donc, justement, des challenges, c'est se faire vacciner pour aller jusqu'à 100 ans, comme vous dites.
Bien sûr, ah non, mais on est tous d'accord que le vaccin peut nous réconcilier avec la crise épidémique, parce que ça peut être la solution. À quelle heure vous avez rendez-vous?
Oui, comment, à 14h45. Alors, pour la petite histoire, j'ajouterais que le jour de la prise de rendez-vous, jeudi, on m'a demandé formuler une date pour le rappel. Donc, on m'a proposé 3 semaines après. Bon, moi, ça me convenait pas parce que j'ai des impératifs. Donc, il se fera vacciner pour le rappel le 13 février à 9h30. Donc, tout est noté, tout est plié. Et j'ajouterai aussi que hier, pour la petite histoire, à 13h, j'ai eu un mail m'informant et me rappelant le rendez-vous de ce jour et me demandant d'arriver 10 minutes avant.
Alors, parfois, je vous parle de ma maman, comme vous le savez. Elle a reçu aussi le questionnaire médical avant vaccination Covid-19.
Bon. Donc, elle s'est fait vacciner.
Elle y va. Mais alors, elle était surprise par les deux dernières questions. Êtes-vous enceinte ou pensez-vous l'être ?
Oui.
Donc, effectivement, bon, elle m'a appelé pour me demander si je voulais un petit frère, mais bon, peut-être qu'il est. qui se fait tard. Et la dernière question, c'était envisagez-vous une grossesse dans les 3 prochains mois ? Donc, elle a réfléchi un peu, mais a priori, c'est pas au programme, si vous voyez.
Je pense que j'aurais pas la même question.
Non, mais c'est le questionnaire médical avant vaccination Covid-19. Ouais. Je l'ai sous les yeux. Avez-vous reçu une vaccination grippe au cours des 3 dernières semaines ? Avez-vous reçu une autre vaccination ?
On m'a demandé ça au téléphone, exactement. Ouais,
hein. Avez-vous, c'est-à-dire que comme ils savaient que c'était pour votre père, ils vous ont pas demandé si votre père était enceinte.
Voilà.
Bon, êtes-vous asthmatique? Êtes-vous en crise? Avez-vous une infection Covid-19 symptomatique il y a moins de 3 mois? Êtes-vous en contact d'une personne Covid-19? Souffrez-vous actuellement d'une infection aiguë avec fièvre? Voilà, c'est le questionnaire médical.
Ça a été les questions qu'on m'a posées au téléphone.
Ouais. Bah oui, parce que c'est les questions, effectivement, qui sont posées. Bah merci beaucoup, Yves. Et puis, ce qui serait pas mal, c'est que vous nous appeliez demain, parce que vous nous diriez comment ça s'est passé avec votre père.
Pas de problème.
Ça vous ennuie pas? Je le dis à Laurent aussi. On vous appelle demain. Et puis, même si votre père, je sais pas s'il aime parler à la radio ou pas, ou s'il pouvait dire un petit mot, ça serait rigolo, je trouve. 98 ans.
Pourquoi pas?
Vous pourriez être avec lui demain vers 13h?
Comme on a le droit d'aller lui rendre visite de façon assez réduite, je vais peut-être m'organiser.
Moi, je trouve que ce serait sympa. Ça serait sympa si on pouvait effectivement faire ensemble un petit téléphone. Merci Yves. Il s'appelle comment votre père, le prénom de votre père ?
Richard,
né en 1922. Quel jour il est né en 1922 ?
Il est né le 20 novembre.
Ah, donc c'est pas tout de suite, effectivement, l'anniversaire. Donc il aura 99 ans
Tout à fait.
Cette année, le 20 novembre. Bon, merci beaucoup.
Alors, croisons les droits grâce au vaccin.
Bah oui, effectivement. Bonne vaccination. Okay, une petite musique, monsieur Greg ?
Avec plaisir. Abba, Dancing Queen.
Ah bah ça met la pêche, par exemple. Ça, c'est... Joignez. Pourquoi nous mettons des musiques un peu entraînantes ? Parce que c'est le troisième lundi du mois de janvier et ce serait la journée la plus déprimante de l'année, le Blue Monday.
Ce qui est génial, c'est que quelle que soit la chanson, la chorégraphie est la même. Ah avec vous, hein, j'entends.
Et la chenille, est-ce que ça met la pêche ?
Non, ça me déprime, moi.
Non, j'ai pas la même chorégraphie toujours. Non,
puis la chenille, c'est pas très Covid attitude. Hein,
vous voulez dire que je ne danse pas très bien ?
Non, je dis que vous ne vous diversifiez pas.
Pas très bien. C'est ce que vous voulez dire. C'est agréable. La pub ! À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, 13h32.
L'amendement des députés de La République En Marche, Aurore Berger, Jean-Baptiste Moreau, pour interdire le port du voile aux petites filles, a été jugé irrecevable, rejeté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Un amendement souhaité dans le cadre du projet de loi confortant les principes républicains.
Marine Le Pen elle-même avait annoncé qu'elle était prête à le voter. Elle n'a d'ailleurs pas tardé à réagir. Selon elle, le gouvernement démontre qu'il n'a aucune volonté d'agir.
Alors, qu'en pensez-vous ? Ce sujet doit-il être mis en avant ? 32-10. Des milliers de personnes victimes d'inceste témoignent sur le réseau social Twitter depuis samedi avec le hashtag MeTooInceste. Près d'un Français sur 10 a été victime d'inceste au moins une fois dans sa vie. La parole est-elle en train de se libérer? Avec le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, vous pourrez témoigner au 3210. Et sachez-le, le troisième lundi du mois de janvier serait la journée, bah oui, la plus déprimante de l'année, le Blue Monday. Bon, difficile de faire pire en ce moment. Alors, contre-programmation au 3210, quelle est la chanson qui, au contraire, vous redonne le moral?
Ça, c'est un choix personnel ou c'est...
C'est un choix collectif.
Ah bon? Ouais, c'est pas un sondage que vous avez fait auprès de la population française.
Mais on peut danser cette chanson. Ça, c'est...
Elle te ressent.
Ouais, c'était sûr Magnolia, que ça allait marcher.
Magnolia Forever.
Et Claude François.
Et dans le chant. Ça, c'est magnifique.
C'est notre jeunesse.
Bon.
À la vôtre.
Ah, je vous en prie. Monsieur Hamon est là, pas Marcel. Jean-Paul Hamon, que vous connaissez, qui représente les médecins. Bonjour Jean-Paul Hamon.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Belle et heureuse année à vous, puisque je ne vous ai pas vu depuis le 1er janvier. Sur Twitter ce matin à 11h38, vous avez posté un message, et c'est pourquoi on vous appelle. On vous voit d'abord, et vous avez écrit « Organisation 5 étoiles de la mairie de Clamart, dimensionnée pour 5000 vaccins par semaine, mais seulement 170 doses ». Où sont les vaccins? 170 doses, c'est par semaine?
Mais normalement, initialement, on devait en toucher royalement 420. Et encore, en conditionnant les flacons, en faisant en sorte de faire 6 doses avec les flacons qui sont initialement prévus pour 5. Donc il faut économiser toutes les gouttes, faire en sorte qu'on ait 6 doses réelles. Et j'aimerais pas être à la place des infirmières qui font les doses, donc qui préparent les doses. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant de n'avoir que 420 doses, alors que normalement, si on a réellement touché 1 500 000 doses, comme on nous le dit, l'Île-de-France devrait au moins pouvoir disposer de 300 000 doses. Et alors, même en imaginant qu'ils en gardent la moitié pour la deuxième vaccination pour les gens qui ont été déjà vaccinés, on devrait pouvoir disposer de 150 000 doses. Or là, visiblement, l'Île-de-France entière ne dispose que de 50 000 doses. Et la question qu'on pose, c'est où sont les vaccins?
Eh bien, moi, je vous la pose. Parce que moi, je ne peux pas vous répondre à ça. Mais vous, vous avez quand même peut-être des informations?
Ben non, on en a pas trop, et puis on aimerait bien qu'il y ait un petit peu de cohérence, parce que j'ai reçu un SMS d'Olivier Véran me disant qu'on allait recevoir 250 doses mardi. Or le maire de Clamart m'a montré un mail que j'ai d'ailleurs fait suivre à Olivier Véran, disant que on toucherait les vaccins sauf aléa, et on aime bien le sauf aléa, mercredi. Donc, le ministre n'a pas les mêmes informations que le préfet. Et nous, on navigue. Du coup, on a prévu notre deuxième séance de vaccination pour vendredi. On a prévu large. Mais tout ça est un petit peu fatigant, parce que les médecins libéraux, les infirmières libérales sont prêts à vacciner. L'organisation du centre de vaccination, elle est absolument remarquable. Les gens ont une circulation qui est extrêmement fluide. Il y a 3 cabinets de consultation, on en a prévu 6. Mais bon, pour 170 doses, ça valait pas le coup d'en faire 6. Donc on a fait 3 cabinets de consultation. Il y a 2 infirmières qui préparent les doses, 3 autres qui piquent une fois qu'on a examiné les patients. Donc tout ça, c'est fluide, et c'est vraiment du gâchis de voir que on est tributaire de l'arrivée de ces vaccins qui sont comme l'arlésienne.
La photo que vous avez prise ce matin, vous êtes donc dans ce centre de vaccination, hein, nous sommes d'accord, et vous attendez les patients. Vous êtes libéral, hein, Jean-Paul Hamon.
Oui.
Donc là, vous étiez comme... Pourquoi vous êtes détaché sur un centre de vaccination? C'est à votre demande ou comment ça se passe?
C'est-à-dire que là, c'est pour montrer que les médecins libéraux et les infirmiers libéraux sont prêts à déplacer leur rendez-vous pour assurer la vaccination de la population.
D'accord.
Donc là-dessus, moi, j'ai voulu montrer l'exemple ce lundi matin. Alors le lundi, ça ne nous arrange pas trop, parce que ce sont des journées qui sont très chargées. Et donc, moi, j'ai montré l'exemple avec un de mes collègues. On est venu, ça faisait trois médecins libéraux, trois médecins pour assurer le centre de vaccination, c'était largement ce qu'il fallait. Et donc, c'est pour nous, c'est difficile de bloquer une journée de consultation et on apprend qu'il n'y a pas assez de doses. Donc, on va être obligé de.
J'ai bien compris. Alors, vous êtes président d'honneur de la Fondation des médecins de France. Une dernière chose, vous avez vacciné combien de personnes ce matin ?
Alors, ce matin, on en a vacciné une centaine. On va en vacciner à peu près autant cet après-midi.
Bon, et les gens sont plutôt contents, satisfaits, inquiets ?
Les gens sont tous demandeurs. Alors, la seule bonne nouvelle de cette histoire, c'est que vraiment, les antivax ont perdu. Les gens veulent se faire vacciner massivement. Là, il y a plus de 1000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Et il n'y aura aucun problème pour vacciner la population. Là, clairement,
il n'y avait que des gens ce matin qui avaient plus de 75 ans, évidemment.
Exactement.
Bon, vous leur posez évidemment le petit questionnaire que j'ai vu tout à l'heure. Par exemple, c'est quelqu'un qui a reçu une vaccination grippe au cours des trois dernières semaines. Vous ne le vaccinez pas de nouveau ?
Non, on attend.
D'accord. Quelqu'un qui a une autre vaccination au cours des deux dernières semaines, pareil.
Il y a eu quelqu'un qui a été vacciné contre le Prévenar il y a 15 jours, donc on l'a récusé, on lui a dit d'attendre.
Contre quoi, vous avez dit ?
La pneumonie.
Ah oui, parce que je n'avais pas compris. Pardonnez-moi. Ouais. Avez-vous une infection Covid symptomatique il y a moins de trois mois ? Pareil, vous ne vaccinez pas dans ces cas-là ?
Exactement.
Bon, évidemment, infection aiguë avec fièvre non plus. Et puis les deux dernières questions, elles m'ont fait sourire parce qu'êtes-vous enceinte ou pensez-vous l'être ? Je pense que la population que vous avez rencontrée ce matin, vous avez peu posé cette question, Jean-Paul Hamon.
J'ai pas compris.
Je dis la dernière question du questionnaire médical, c'est êtes-vous enceinte ou pensez-vous l'être ? Et je me disais que, au regard des gens que vous avez vaccinés ce matin.
Au-delà de 75 ans, si vous voulez, ce sera plutôt l'exploit, mais personne n'a déclaré être enceinte ce matin.
Donc voilà. Bon, ben merci beaucoup, Jean-Paul Hamon. Hein, vraiment merci. Et puis, bravo d'abord pour votre engagement. Bravo pour votre engagement. Bravo. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de la Fondation des médecins de France. Bravo pour l'idée de donner l'exemple en tant que médecin libéral. Et puis, bravo aussi que les antivax, au moins, comme vous dites, ça sera peut-être un combat gagné, celui-là. Et on peut tous se réconcilier, au moins, sur le vaccin. Et c'est pas faire de l'idéologie que de dire cela. Merci vraiment. Merci Jean-Paul Hamon. Monsieur Karanoni.
Oui, monsieur Pro.
Avant la pub, c'est quand même une petite chanson.
Ah, bah avec plaisir.
Allons-y.
Ah, pardon, c'est la playlist de demain, ça. Vous dansez moins quand c'est plus moderne, c'est marrant, hein ?
Oh, vous êtes pas gentil. Mais je m'étonne que vous n'ayez pas proposé une chanson qui met un petit peu le feu. C'est Au bal masqué, qui est de circonstance. Au bal masqué, oh et oh. Et je m'étonne que vous n'ayez pas proposé cette petite chanson.
C'est vrai, bah, je pourrais la garder pour le prochain écran pub. Si
à 13h40, nous faisons une pause.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Proulx.
Benjamin est là, Benjamin qui est pharmacien.
Bonjour Pascal.
Bonjour et merci d'être avec nous. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure. Votre sentiment ?
Ah bah, mon sentiment, moi je rejoins un peu le monsieur de Valenciennes qui a réussi à avoir une place en fait pour son père. Nous apparemment dans le Pas-de-Calais, ça a l'air de bien se passer. Alors je regardais avant de vous avoir au téléphone justement sur Doctolib les disponibilités sur les centres hospitaliers et centres de vaccination. Donc ça a un peu changé je pense avec l'ouverture aux personnes de 75 ans et plus. Mais je sais que pour la semaine dernière, ma titulaire en fait et une des préparatrices de la pharmacie ont pu se faire vacciner sans aucun problème au niveau du centre hospitalier de Lens. C'est que tout s'est bien passé, quoi. Donc voilà, on l'a même dit à un des médecins du centre hospitalier de Lens, comme quoi ils pouvaient être contents en fait de l'organisation qu'ils avaient mis en place parce que tout se passait bien. Maintenant, c'est vrai que se pose le problème du nombre de doses qui arrivent chaque jour au niveau des pharmacies hospitalières. Je suis sur un site en fait où on discute entre pharmaciens et vous avez plusieurs pharmaciens hospitaliers qui se désolent en fait de ne pas recevoir les doses qu'ils aimeraient recevoir, quoi.
Est-ce que vous sentez quand même que la population a beaucoup changé ces derniers jours, voire ces dernières semaines, et que désormais les réticences qui existaient n'existent plus ?
Ah oui, ça c'est sûr et certain. Bon, nous, ça fait quasiment plus d'un mois en fait qu'on essaie d'expliquer à nos patients qu'il faut aller se faire vacciner, que voilà, sur les retours qu'on a, que la HAS l'a autorisé, donc c'est quand même la Haute Autorité Santé, c'est elle qui nous protège. Faut quand même savoir qu'en France, grâce à la HAS, on est le seul pays au monde à pas avoir de contrefaçon en fait dans nos produits pharmaceutiques.
Donc, vous avez dit la HAS, c'est ça, la Haute Autorité de la Santé.
Voilà. Donc à partir du moment où eux valident quelque chose, voilà, on peut être serein sur le vaccin. Il faut y aller. Alors je dis ça. Apparemment, il n'y a pas forcément beaucoup de disponibilité pour pouvoir le faire. Et je souhaite que ça se débloque le plus rapidement possible pour tous les patients et tous ceux qui veulent se faire vacciner.
Bon ben merci Benjamin. Dernière chose, parce que les pharmaciens sont au contact par définition des malades. Vous avez le sentiment qu'il y a une recrudescence de l'épidémie en ce moment?
Non, pas dans notre secteur.
D'accord.
Pas dans notre secteur. Après, si je peux me permettre juste une dernière chose, Pascal, je reviens par rapport au Blue Monday. Enfin, c'est juste, je voulais vous dire que comme chanson, la compagnie créole, je valide totalement.
Ah, la compagnie créole.
Voilà. Ça donne envie de danser.
Ah oui, en plus, cette saison, si j'ose dire. Mais j'ai vu également que les dom-toms ferment. Leurs frontières, en tout cas, sont très vigilants. Et si vous allez aujourd'hui en Martinique, vous devez rester à l'écart pendant 7 jours. Vous devez ce qu'on appelle une septaine. Alors, comme les gens vont généralement en Martinique ou en Guadeloupe pour quelques jours, si vous allez 7 jours et que les 7 jours, vous ne pouvez pas profiter du soleil, vous devez rester à l'ombre, si j'ose dire. C'est pas rigolo, en fait. Le tourisme est... Ça va être difficile, le tourisme en Martinique.
D'où l'importance de la vaccination et pouvoir tous le faire le plus rapidement possible.
Je suis d'accord avec vous. Vous avez 39 ans, par exemple. Vous aimeriez vous faire vacciner déjà?
Ah oui.
Mais oui.
C'est pas possible encore, je comprends.
Mais 39 ans, vous êtes... Vous n'avez pas de soucis majeurs, vous êtes en pleine forme.
Non, c'est pour ça que je vais attendre mon tour. Je comprends que les personnes fragiles passent en premier et c'est tout à fait logique. Donc voilà, je vais attendre mon tour comme tout le monde. Ça viendra.
Eh ben, merci beaucoup, Benjamin. Qu'est-ce que nous faisons, Greg? Une page de publicité. Après, on va parler du voile.
Il est l'heure.
L'amendement de la députée de La République En Marche, Aurore Berger, qui visait à interdire le port du voile aux petites filles, a été rejeté. Donc, on en parle dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous connaissiez sans doute cette possibilité d'amendement de la députée de La République En Marche, Aurore Berger, qui visait à interdire le port du voile aux petites filles. Ça a été rejeté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Amendement dans le cadre du projet de loi confortant les principes républicains. Nous sommes avec Nicolas Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal.
Vous nous appelez du Maroc ?
C'est ça, comme d'habitude.
Eh bien, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que ce sujet doit être mis en avant?
Alors, moi, je regrette pas du tout que cet amendement ne soit pas passé, bien que je ne sois pas pour le fait que les petites filles portent le voile.
Ah, c'est une position qui est paradoxale, donc vous allez pouvoir expliquer votre raisonnement.
Bien sûr. C'est que, voilà, déjà, d'un point de vue religieux, il n'y a aucune raison qu'une petite fille impubère mette un voile. Bon, moi, ça, c'est clair, c'est défini. Après la loi, voilà, cet amendement, il aurait stigmatisé encore un peu plus les musulmans. Donc, c'est toujours regrettable. Et surtout, ce que je me dis, c'est que le problème, ce n'est pas tellement le voile. C'est plutôt la doctrine des parents, la mentalité des parents. Vous comprenez? Donc...
C'est vrai que je comprends la démarche d'Aurore Berger, d'imaginer une petite fille, vous dites stigmatiser les musulmans, non, stigmatiser les quelques musulmans, mais d'imaginer une petite fille de 11 ans, 12 ans, 13 ans, couverte des pieds jusqu'à la tête, c'est vrai que, peut-être n'est-ce que le voile en partie, mais qui la recouvre, c'est vrai que ça peut choquer, disons-le.
Ouais, mais alors attendez, je vais vous dire, j'ai été bénévole dans une école coranique dans le Var, il y a quelques années. Il devait y avoir 300-400 élèves. J'ai jamais vu une petite fille de moins de 10 ans avec un voile. Donc je sais pas, je dis pas que ça existe pas, c'est sûr que ça existe, ça va être très minoritaire. Et pourquoi faire un amendement là-dessus, alors qu'il serait plus judicieux de contrôler un peu plus les familles?
Mais parce que... Bon, pour le coup, j'ai pas forcément d'avis dessus, mais c'est peut-être plus facile d'interdire un voile dans une rue ou dans une école, quoi. À l'école, c'est déjà interdit d'ailleurs. Mais c'est plus facile peut-être que de contrôler l'ensemble des familles. Je peux l'interpréter en tout cas comme cela. Nicolas.
Ça m'a changé quoi, fondamentalement? Parce que les parents qui sont idiots, excusez-moi du terme, ils ne seront pas moins idiots parce qu'on leur interdit.
Ils ne sont d'ailleurs pas idiots, ils sont simplement dans un rapport à leur foi qui est peut-être excessif. Écoutons Charles, qui est enseignant, parce qu'il n'est pas de votre avis, et vous allez pouvoir dialoguer ensemble. Charles, bonjour.
Oui, bonjour. Ben oui, j'ai bien écouté. Écoutez, moi, je trouve regrettable, en fait, que ce type de loi ne passe pas, parce que je pense que les musulmans, enfin, certains musulmans, on ne va pas généraliser non plus, mais ils se sentent stigmatisés pour tout et pour rien, maintenant. Ce qui fait que, du coup, les autorités, les politiques sont confinés en fait à l'immobilisme, parce qu'en fait on ne peut rien dire. Dès qu'on dit quelque chose, c'est de suite le mot stigmatisation qui est mis sur le tapis. Et moi, si vous voulez, je trouve que on prend 1000 précautions dès qu'il s'agit de s'adresser aux musulmans. On fait beaucoup de détours. On parle même de signes ostentatoires catholiques pour ne pas nommer directement les musulmans. Donc, vous voyez, on les cajole quand même. On fait bien attention. Je dis bien une partie des musulmans. Je préfère prendre cette précaution oratoire. On ne sait jamais. Mais voilà, moi je trouve que toute forme de prosélytisme ou toute ostension, si vous voulez, d'un signe religieux, alors que ce soit à l'école, mais à l'école de toute façon c'est dévoyé parce que bon, il y a beaucoup de musulmanes qui mettent quand même un voile, alors c'est pas forcément un voile intégral, etc., mais elles arrivent quand même à le porter, donc la loi n'est déjà pas appliquée à l'école ou dans les collèges et les lycées. Mais je trouve qu'à un moment donné, voilà, je crois qu'il faut appeler un chat, et si voilà, on veut cadrer avec des valeurs républicaines dans lesquelles la religion n'a pas lieu d'être, je trouve que à un moment donné, faut loger tout le monde à la même enseigne. Voilà.
Alors, ce qui est drôle, c'est la réponse qui a été apportée à Aurore Berger. Nous savions qu'il y avait un risque que nos amendements ne puissent être examinés. Aurore Berger a dit. Ce sera le cas puisqu'ils ont été déclarés irrecevables par la commission spéciale, car sans rapport direct légistique avec le projet de loi.
Mais oui, mais bien
donc
sûr.
Donc moi, ça me fait sourire parce que si, il me semble que c'est un rapport quand même légistique.
Bien sûr, moi je vais juste vous dire quelque chose aussi qui m'étonne. Moi j'aimerais bien connaître le positionnement des féministes. Pourquoi ne montent-elles pas au créneau là dans ces circonstances-là? Parce que c'est quand même un silence regrettable pour des personnes en fait qui se battent d'ailleurs à juste titre, hein, qui mènent des combats et qui veulent faire progresser des choses dans la société. Mais ça, pour moi, ça c'est un signe de progrès. Moi, voyez, je pars du principe que la foi, tout le monde a le droit de pratiquer la foi. On peut la pratiquer dans la sphère privée, mais dès lors qu'il y a des règles et dès lors qu'on est en France et qu'on est donc dans des institutions républicaines, je ne vois pas pourquoi je me sentirais offensé. Enfin voilà, il n'y a pas d'offense particulière. Je vois pas quelle est j'estime que c'est pas du tout compliqué de se plier à des règles élémentaires. On n'empêche pas les gens de croire, on n'empêche pas les gens de pratiquer, mais on n'est pas obligé de porter ça comme ça en bandoulière, en permanence. Voilà,
mais là, vous avez raison, Charles, c'est de dire que les féministes ne montent pas au créneau et ça serait intéressant de les interroger. En fait, on sait à peu près pourquoi. C'est-à-dire que dans les valeurs qui sont aujourd'hui dans le camp du bien, forcément, sont des valeurs dites progressistes, évidemment, le féminisme, à juste titre d'ailleurs, en est une. Mais le combat contre l'antiracisme en est un autre. Et je pense que dans la hiérarchie, on considère que l'antiracisme est supérieur d'une certaine manière au combat féministe. Oui. Et ce serait être raciste que d'attaquer, j'imagine, ce voile pour les petites filles. En tout cas, ce serait perçu comme cela, de dire, voilà, vous attaquez les musulmans et c'est une façon discriminante, etc.
Mais enfin, donc,
j'imagine que ça puisse être cela.
Et les féministes sont assez... Est-ce que c'est bien intelligent de hiérarchiser comme ça? Parce qu'à un moment donné, soit on est intègre dans son idéologie, et à ce moment-là, on condamne tout ce qui nous paraît pas aller dans le sens justement de la liberté des femmes, de la libération des femmes, soit on ne fait rien. Et à un moment donné, il faut arrêter de balancer du racisme à tort et à travers. C'est très facile aussi de dire que dès qu'on s'adresse aux musulmans, c'est du racisme. C'est quand même
c'est quand même une pirouette idéologique dans laquelle tombe, c'est un piège en fait qu'on nous tend en permanence et dans lequel tombent tous nos responsables politiques. Alors, les,
bah, c'est délicat, effectivement. Bah, merci oui, en tout bah, cas, oui. Charles. Merci pour votre témoignage. Mais c'est vrai que les féministes seraient bien inspirées de défendre parfois d'autres combats, en tout cas que ceux qui sont menés le plus classiquement, dirons-nous. 13h57. Alors, Abdelatif sera là dans une seconde. On va continuer la discussion, évidemment, sur le voile. Petite musique pour se dire au revoir quelques secondes. Après, il y aura le flash et on bien est sûr. Là, hein, bien sûr.
Bien sûr. On est là. Ça ne vous parle pas.
Ça met le moral dans les chaussettes, ça, c'est pas
vrai. Vous plaisantez, je sais.
C'est quoi ça?
Justin Timberlake, ça donne le moral à un tas de personnes.
Justin Timberlake, bien vous pensez que les gens qui nous écoutent connaissent Justin Timberlake? Alors, sérieusement?
Oui, j'en suis sûr.
Vous pensez?
Oui, oui.
Vous pensez que les gens qui nous écoutent là, Justin Timberlake, ils le connaissent?
Bien sûr.
Vous n'êtes pas sur RTL2?
Et alors?
Bah, vous êtes sur RTL.
Je connais Edith Piaf, on ne l'écoute pas tous les jours.
C'est pas non plus ce que je dis. Voilà. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et 14h01.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
L'amendement de la députée de La République En Marche, Aurore Berger, qui visait à interdire le port du voile aux petites filles, a été rejeté. Abdelatif, bonjour.
Bonjour.
Vous trouvez que c'est une bonne chose?
Ah ben, j'estime que c'est une décision sage et responsable.
Eh bien, vous allez nous expliquer là aussi pourquoi. Olivier Bois, le flash.
Et Martine Aubry, la maire de Lille, dénonce une pénurie de vaccins. Vous avez entendu tout à l'heure également dans RTL Midi le coup de gueule de l'urgentiste Patrick Peloux pour qui il n'y a pas les doses suffisantes. Alors que commence aujourd'hui la campagne de vaccination des 5 millions de Français de plus de 75 ans. Olivier Véran, le ministre de la Santé, à distance, leur répond que le gouvernement assume une vaccination à flux tendu avec les stocks de Pfizer et de Moderna qui sont livrés au fur et à mesure. D'ailleurs, à ce propos, Pfizer a des problèmes de fabrication et de livraison cette semaine. Il y a un manque de 140 000 doses, par exemple, en France. Mais le gouvernement assure que tout rentrera dans l'ordre dès la semaine prochaine. Il y a désormais 30 restaurants 3 étoiles en France. Le guide Michelin a rendu sa copie 2021. Vu le contexte, il avait été décidé que personne ne serait rétrogradé. Mais Alexandre Mazia, donc le chef marseillais, accède à cette reconnaissance ultime pour sa cuisine. Cuisine qu'on dit audacieuse. Par exemple, Pascal, l'AFP nous donne l'exemple de ce sorbet de framboise à la sauce harissa. Le quintet à Vincennes, l'arrivée provisoire le 8, le 10, le 11, le 13 et le 12. Et le temps de demain qui sera beau et sec sur une très grande partie du territoire. Quelques pluies le long de la côte de la Bretagne à Lille et sur la frontière belge. Température moins 1 degré dans l'est, 5 à 10 degrés dans le nord-ouest et autour de 5 degrés vers la Méditerranée.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Qu'est-ce qui se passe, Greg Caradoni? Vous vouliez me dire quelque chose?
Non, je disais que, Olivier, vous avez gentiment, comment dire, titillé, demandé votre avis sur un sorbet et vous a laissé sans voix.
Je vous parlais de ce chef étoilé qui propose du sorbet de framboise à la sauce harissa, mais vous m'écoutiez pas.
Mais je vous écoutais, non seulement je vous écoute, mais vous l'avez goûté, ce sorbet?
Non, j'ai pas les moyens encore.
Vous n'avez pas vérifié
l'info? Non, j'ai pas vérifié. J'irai un de ces jours à Marseille.
Sorbet harissa. Abdelatif, qui est commerçant dans les Pyrénées-Atlantiques. Abdelatif.
Bonjour Pascal.
Aurore Berger, donc visait à interdire le port du voile aux petites filles. On se dit, sans entrer évidemment précisément dans l'application de la loi, on se dit, c'est peut-être une bonne chose. Pourquoi pas de ne pas laisser une petite fille avec le voile et de ne pas la laisser à un âge effectivement où elle a peut-être où ce n'est pas le meilleur âge peut-être de montrer ce signe religieux.
Je suis tout à fait d'accord sur la première constatation. Une petite fille, c'est une page blanche sur laquelle on peut écrire par rapport à l'éducation, par rapport au vécu, par rapport à la société dans laquelle il vit. Mais là, on parle de quoi, monsieur Pascal Praud? On parle de combien de petites filles qui ont ce voile? Moi, j'en vois pas. Il y a 3 ou 4 semaines, on a parlé à un auditeur qui vous a posé la question. En avez-vous vu, monsieur Pascal Praud? Vous avez répondu non. Alors, si on doit faire des amendements sur des choses qui n'existent pas ou des choses qu'il faut aller chercher par un microscope électronique pour trouver les quelques dizaines, centaines de familles qui pratiquent ça, bah, je pense que c'est pas productif parce que d'abord, ça donne l'impression aux musulmans qu'ils sont stigmatisés, c'est-à-dire qu'on va chercher même au cœur de leurs enfants pour leur dire voilà comment ils doivent se vêtir, et ça ne sert à rien. Puisque ça n'existe pas. Moi, je suis musulman, mais je le dis, mais j'en vois pas. Des petites
filles. Vous êtes musulman vous-même.
Moi, je suis musulman, ma mère.
Vous avez des... Mais vous avez des enfants, Abdelatif ?
J'ai des enfants.
Et jamais, voilà. Vous avez des garçons ou des filles ?
J'ai les deux.
Et jamais vos filles, par exemple, n'ont porté le voile ?
Pas du tout.
Non, mais c'est intéressant de...
D'abord, pourquoi, comme on a dit la dernière fois, le voile, c'est quoi exactement ? Le danger dans cette histoire de voile qui traîne depuis 30 ans, c'est que les deux interprétations, ça vient de ceux qui combattent le voile et de ceux qui veulent mettre le voile, elles sont faussées. D'abord, chez les musulmans, le voile, ce n'est pas une obligation, comme l'a rappelé Nicolas du Maroc, et surtout pour un enfant qui n'est obligé en rien. Et en même temps, les anti-voiles, ils croient que le voile, c'est un signe de défiance à la République.
Il l'interprète effectivement parfois comme un signe politique. Et c'est vrai que parfois ça l'est aussi.
Ça peut être. Non, je ne dis jamais.
Non, mais il y a effectivement, lorsque la jeune femme de l'UNEF, qui représente l'UNEF, était entrée à l'Assemblée nationale avec le voile, on pouvait imaginer qu'elle était là dans un combat politique. Je le dis bien, on pouvait.
On ne va pas rentrer dans un dialogue tous les deux, mais je vais vous poser une question et répondez-moi honnêtement. Cette jeune fille voile, présidente de l'UNEF, je crois qu'elle est à la Sorbonne, c'est bien ça ?
Oui, je ne sais pas où, si elle est à la Sorbonne, j'oublie à l'instant son nom, mais je vais le retrouver d'ailleurs, président.
Il y a combien de milliers d'étudiants à la Sorbonne ? Est-ce que tous ces étudiants à la Sorbonne, ce sont des musulmans ? Non, pas du tout. Et pourtant, ils ont voté pour cette fille, parce que ça ne les choque pas. Ça doit choquer une partie de la population, mais pas tout le monde. Et c'est pour cela que moi, personnellement...
Marianne Pougetou, vice-présidente. Elle n'est pas présidente, d'ailleurs, elle est vice-présidente de l'UNEF, et elle s'était présentée voilée à l'Assemblée nationale. Donc là, certains y avaient vu un acte politique.
Ils y avaient vu un acte politique. Alors, en tout cas, concernant l'amendement de Mme Berger, moi, je suis vraiment très content que cet amendement ait été... déclaré irrecevable pour la simple raison c'est encore un débat supplémentaire sur le voile qui est dur et comme la personne a dit tout à l'heure les musulmans ils se sentent attaqués et c'est vrai moi je lui donne raison de dire sur une chose sur la réaction des musulmans que ce soit sur le voulard ou autre on a souvent globalement une réaction un peu exagérée qui dépasse même l'entendement. Alors qu'on peut discuter, expliquer le pourquoi des choses tranquillement et on en...
Non mais Abdelatif, moi j'entends ce que vous dites mais tout le monde n'est pas dans votre disposition d'esprit. Alors je sais que c'est une minorité, minorité active, mais vous savez bien qu'il y a aussi un islam politique parfois qui existe en France, on va pas se raconter de salade et qui, poursuit un but qui n'est pas le vôtre. Manifestement, vous faites partie comme 90% des musulmans français et peut-être davantage qui ont envie de vivre tranquillement, sereinement leur religion. Vous le
Est-ce
savez que,
vous que dans ce, cas-là,
ce n'est pas
que
le cas de
tous.
Que l'on
vote des lois pour les 5% qui restent.
Oui, non, mais moi j'entends ce que vous dites et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez la parole.
En tout cas, c'est vraiment une très bonne décision parce qu'on va arrêter peut-être, on doit apaiser les choses, discuter, laisser que les politiciens n'utilisent pas le voile. Moi, j'aurais aimé poser la question directement à Madame Berger, mais c'est quoi l'objectif de cet amendement ? C'est exactement. Il rentre même pas dans le cadre de cette loi qu'ils sont en train de discuter. J'ai oublié le terme. Ça rentre même pas.
J'entends bien, elle est jugée irrecevable. Voilà. Une pub et Mounia terminera puisque ce sera la dernière auditrice sur ce sujet et puis on parlera après de l'inceste et puis désormais il y aura une surprise en fin d'émission parce que comme vous l'avez vu on a un poil modifié l'articulation on écoute nous et beaucoup d'auditeurs nous ont dit entre 14h et 14h30 on entend moins les auditeurs parce qu'on avait parfois un invité donc là on va plus entendre les auditeurs et en revanche tous les jours désormais vers 14h20 et 14h22.
Vous allez dévoiler la surprise, là ?
Ah bah non, voilà.
Ah, non mais...
Une petite musique, parce que c'est le Blue Sunday.
Vous en voulez une maintenant ?
Bah oui, je croyais qu'on appelait Raphaël Misrahi, d'ailleurs. Il n'est pas libre, Raphaël, sans doute ?
Il ne répond pas.
Ah, il répond pas. Bon. Oui, une petite musique avant la pub. Ah oui, mais non.
Ah bah
non.
Si.
On l'a entendu tout le mois de décembre, c'est pas sérieux.
Vous êtes sérieusement en train de me dire que ça ne vous plaît pas?
Mais ça me plaît, mais on l'a entendu tout le mois, d'accord. C'est Noël, enfin.
Eh bien, ça me met de bonne humeur, moi, vous voyez.
Mais je vous en avais proposé I Can Boogie, Boogie, I Can Boogie. C'est dur de chanter sur une chanson.
Oui.
Vous connaissez ça?
Je vais sortir ça là, oui.
Boogie. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Flavie Flamand.
C'est tout à l'heure, juste après les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec vous, Pascal Pro.
On l'attend effectivement, Flavie Flamand, vers 14h27-28 pour le programme. Mounia est là. Bonjour Mounia, vous habitez dans l'Hérault et vous écoutez notre discussion. Vous allez pouvoir synthétiser ce qui s'est dit. Qu'en pensez-vous?
Oui, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, en fait, ça m'a fait un petit peu réagir, je vous écoute très souvent. Et en fait, moi je suis musulmane aussi, de culture, donc je porte le voile. Et comme disait votre auditrice, j'ai trois filles qui ont 17, 15 et 11 ans, et elles ne portent pas le voile, parce que j'estime que c'est leur choix. Et elles porteront le voile si vraiment elles en ont envie, voilà. Et puis comme disait l'auditeur juste avant moi, personnellement, je n'en ai jamais vu de petite fille de 10, 11 ans porter le voile dans mon entourage ou dans la rue. Donc je crois que cette loi, elle n'est pas vraiment... c'est pas le moment venu quoi, fait, de voter une loi comme ça quand je vois, pas plus tard que samedi, une émission à la télé où on voyait des enfants, des familles entières sur Marseille vivre dans des taudis. Alors je crois qu'il y a des lois beaucoup plus... importante que ça à voter, que de voter pour une minorité de petites filles, alors qu'il y a des millions et des millions de personnes qui vivent vraiment très mal en France et tous les jours.
Écoutez, j'entends votre argument, hein. Les uns et les autres peuvent l'écouter. Je ne sais pas si les deux choses sont à mettre en rapport, mais en tout cas, c'est votre raisonnement, Mounia.
Moi, je parle du point de vue de la loi, voilà. Moi, c'est mon raisonnement. Je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des lois beaucoup plus importantes à voter que le port du voile des petites filles qui sont une minorité en France. Mais alors, quand on dit qu'après, c'est peut-être signe religieux...
c'est un signe religieux, oui. Et puis c'est...
Oui, mais dans ces cas-là, alors pourquoi cataloguer que le foulard ou que le voile? Parce que moi, dans les écoles de mes enfants, et je sais que j'ai côtoyé beaucoup de personnes, les enfants avaient une croix gammée au cou. Ça m'a
une croix gammée?
Oui, pas une croix gammée, excusez-moi, la croix de Jésus.
Ah bah oui, c'est pas la même chose, Mounia.
Non, excusez-moi, je suis partie dans...
Oui, mais c'est tout le problème
donc,
de la...
Pour moi, c'est un signe religieux aussi.
Oui,
donc
mais
après,
vous pouvez
il faut
pas...
faut cataloguer et l'interdire, il faut interdire pour tout le monde.
Non, mais Mounia...
Pas que le voile.
Mounia, ce qui est compliqué, parce que là, je vais sur des œufs là-dessus, mais ce qui est compliqué, c'est que vous ne pouvez pas comparer, me semble-t-il, une croix légère posée sur un cou avec... le rapport que la France a à la chrétienté, qui est présente depuis 2000 ans, avec la religion musulmane qui est parfois plus démonstrative avec ce voile que chacun peut voir, et une culture qui est nouvelle en France. C'est-à-dire que
vous m'excuserez, moi, quand je vois une bonne sœur avec son voile sur la tête, ça ne me choque pas. Parce que je sais que c'est son choix religieux.
Mais je trouve que c'est très bien que ça ne vous choque pas, d'ailleurs. Je trouve que c'est très bien. Mais la difficulté pour certains de nos compatriotes, c'est qu'effectivement, c'est une religion nouvelle en France, qui a pris une place importante depuis 30 ans, n'existait pas.
Je pense que c'est pour une minorité ou une majorité. Je ne sais pas si une minorité ou une majorité de personnes qui vraiment ont un esprit vraiment très restreint.
Parce qu'ils y voient aussi.
Je suis du Maroc. Et au Maroc, je peux vous assurer qu'il y a des églises. Et dans ces églises, il y a des bonnes sœurs qui sont dans un couvent. Il en existe encore. Vous avez toute la.
Non, mais Mounia, pardon. Mounia, comprenez.
Tous les juifs qui sont intégrés au Maroc.
Oui, mais je ne vous parle pas du Maroc.
Religion.
Mounia,
donc,
je ne vous parle pas.
Je ne comprends pas pourquoi en France, ça doit faire un.
Mais je vais vous dire pourquoi, Mounia. Parce que certains islamistes veulent, à travers l'islam, faire adopter une sorte de code de conduite.
Oui, j'entends bien Pascal.
De ceux qui les suivent, bien sûr que c'est une minorité. Bien sûr, c'est une minorité. J'entends bien.
Mais le problème, c'est que dans les.
Je sais que c'est une minorité. Je le sais bien. C'est toute la difficulté.
Que ça.
Mais c'est une minorité qui est active.
Toute la religion.
C'est une minorité qui est active et qui effectivement a des relais et qui effectivement ça peut parfois inquiéter nos sociétés laïques. Voilà.
Oui, je comprends, mais voilà. Moi,
c'est-à-dire que nous, quand tu entends effectivement que certains enfants, vous savez que on a quand même des témoignages aujourd'hui, et je l'ai eu à ce studio, à ce micro, d'enfants qui se bouchaient les oreilles en maternelle. Et on comprenait pas pourquoi ils se bouchaient les oreilles en maternelle. Parce que c'était leur première année de maternelle et que chez eux, ils n'avaient pas le droit d'entendre de la musique. Donc le réflexe qu'avaient ces enfants de 3 ans ou 4 ans, c'était de se boucher les oreilles. Donc ouais. Évidemment, c'est ultra minoritaire, puisque la personne, je me souviens, disait on a toujours chaque année en maternelle un ou deux élèves par classe.
Ça peut arriver. Parce que moi, là où je vis, je vous assure que dans toutes les écoles que mes filles ont fréquentées, il n'y a jamais eu ce cas.
Mais je sais, mais j'en suis sûr.
Après, c'est très...
J'en suis certain voilà, que ce n'est pas dans toutes les écoles de France,
mais
bien sûr.
Mais il suffit qu'il y ait un cas pour que ça fasse des polémiques extravagantes et que, voilà, tout de suite, l'islam est une très belle religion. Je tiens à le signaler et je veux le dire. C'est une très belle religion, une religion pieuse.
Mais je veux même pas entrer dans ce débat-là, donc, parce que toutes les religions...
Mais moi, je le dis parce que je suis musulmane et je sais ce que c'est que l'islam. Donc voilà, je le dis. Et comme je disais, j'ai trois filles qui ont 17, 15 et 11 ans. Et je ne les ai jamais obligées à porter le voile. Elles écoutent de la musique comme les jeunes de leur âge. Elles sont intégrées dans une religion. Elles savent ce qui est le bon et ce qui est le pas bon. Donc après, elles sauront faire le tri. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut le vivre. C'est vrai que
j'entends bien,
on est musulmans et on vit en France. Donc on a aussi un rôle d'adaptation. On doit s'adapter et on s'adapte, mais sans oublier nos valeurs. Voilà.
Bah écoutez.
Sans oublier nos valeurs.
Bah c'est parfois ça qui est discuté d'ailleurs. Vos valeurs sont aussi les nôtres, j'ai envie de dire. Vous voyez, nos valeurs, qu'est-ce que vous mettez derrière ce « nos valeurs » comme si c'était pas non plus les nôtres.
Non, mes valeurs, c'est en fait les valeurs, je veux dire, de l'islam. C'est-à-dire être respectueux, être tolérant. Et ça, Dieu sait que ça existe dans toutes les religions.
Oui, voilà. Et puis même dans la vie civile, on peut être respectueux.
Voilà. Mais j'ai l'impression que souvent, on oublie qu'en fait, que l'islam, c'est quand même une religion pure à la base. C'est vrai que là, comme vous dites, depuis une trentaine d'années, on voit l'islam comme la pire des religions existantes sur Terre.
Alors je ne crois pas que ce soit ça exactement. Je crois que... mais le mot religion pure, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, Mounia. En tout cas, je vous remercie de cet échange et on pourra le prolonger, pourquoi pas, une autre journée, parce que c'est intéressant d'échanger. Il est 14h19, nous avons fait depuis le début... un tour d'horizon des chansons qui nous mettaient la pêche en ce jour lundi du Blue Sunday. Entre Bloody Sunday et Blue Sunday, je faisais...
Quoi qu'il en soit, vous chantiez tout à l'heure I Can Boogie, I Can
Boogie.
Oui,
ça c'est bien ça.
Alors, bon, j'ai cherché, j'ai retrouvé ça.
Yes, sir. I Can Boogie. Ça c'est magnifique ça. C'est tellement les années 70.
Et ça vous donne le moral alors?
Et moi ça me donne la meuf. C'est pas ça, je suis prêt à chanter, à sauter dans le studio avec ça.
Et vous croyez que nos auditeurs connaissent cette chanson?
Mais tout le monde connaît ça. Vous êtes méchant. Vous n'y pouvez rien, vous êtes mauvais. Vous n'y pouvez rien.
C'est plus fort que moi.
C'est plus fort que vous. Bon du coup on a terminé à 14h20.
On n'a pas encore terminé, non?
C'est la
surprise qui arrive.
C'est la surprise maintenant. Alors c'est la surprise, c'est la nouveauté de notre petit programme. Madame, monsieur, Laurent Tessier. J'aime beaucoup le jingle le vendredi soir en direct du studio de Neuilly. Il est super ce...
Je suis content que ça vous plaise.
C'est vous qui l'avez fait?
Absolument.
Eh ben, il est génial. Vous pourriez mettre ça, un petit jingle pour Laurent à partir de demain?
Bien sûr. En direct du studio 11, vous voulez
aussi? En direct du studio 11, Laurent Tessier pour le débrief de l'émission. Parce que c'est ça maintenant. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Tous les jours à cette heure-là, pour tous ceux qui ne sont pas forcément depuis 13h à l'antenne, la promesse c'est de savoir tout ce qu'on a écouté depuis 1h30. Et l'ami Laurent Tessier va faire une sorte de débrief avec les meilleurs moments de l'émission. C'est ça notre promesse.
Et les moments les plus intenses de l'émission. Et c'est vrai que c'est le sujet qui vous a fait le plus réagir aujourd'hui au 32-10. Mais tiens, lequel à votre avis a fonctionné?
Si je vous parlais, disais qu'on parlait d'autre chose, des vacances à la mer, vous seriez surpris. On va parler du Covid, exceptionnellement.
Bah oui, on va parler du Covid avec l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, puis à celles qui présentent des pathologies au risque. Sauf que bah, pour prendre rendez-vous, c'est la galère. Exemple avec Christine.
Sur tous les sites de Lyon, aucun créneau ne sont disponibles. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi derrière, si vous voulez, on ne met pas en place des choses qui puissent fonctionner et permettre à tout le monde de s'inscrire et de se faire vacciné. Je ne suis pas orage, mais je suis un peu perplexe, voyez-vous.
Ouais, perplexe, c'est un témoignage d'ailleurs qui vous laisse même sans voix, Pascal.
Christine, je ne vous ai pas interrompu, c'est assez rare, non. Diront certains, mais, oui. Mais parce qu'en fait c'est édifiant.
Et oui, Pascal Pro qui ne parle plus, ça c'est édifiant. Alors compliqué de s'inscrire sur la plateforme santé.fr et compliqué sur le numéro de téléphone national, hein, le 0800 009 110, n'est-ce pas Arlette?
Ah, je sais pas, ça vous répond, tous nos confrères sont occupés, voilà. Non, et même sur Bordeaux.
Alors, non, ce n'est plus possible. Et vous vous lancez, Pascal, dans une mission sauvetage.
Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va appeler.
Nous vous remercions de bien vouloir renouveler votre appel.
Ah bah voilà.
Bienvenue sur le numéro vert de vaccination de Neuilly-sur-Seine. Tous nos opérateurs sont actuellement en ligne.
Bon, voilà, pas plus de réussite. Et là, Pascal, bah, on sent un peu de la lassitude. Ah non, vous êtes vraiment à bout.
On n'est pas capable de faire ça, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas les doses, une fois on n'a pas les masques, maintenant on ne peut pas joindre les services, c'est compliqué quoi.
Tout va mal, et pour cause aujourd'hui, c'est le troisième lundi du mois de janvier. Le Blue Monday, le jour apparemment le plus déprimant de l'année. Alors non pour vous Pascal, c'est le dimanche, ou alors vous avez manqué des cours d'anglais au collège.
Une petite musique, parce que c'est le Blue Sunday.
Ah, le Blue Sunday. Alors ça, tiens, on innove un peu. Mais c'est vrai que ça s'est senti aujourd'hui, bah, que vous n'étiez pas au meilleur de votre forme.
Vous êtes ronchon quand même. Hein.
Vous trouvez que je suis ronchon?
Bah, vous êtes un peu ronchon, ouais.
Ah mince.
C'est-à-dire que la déprime vous déprime encore plus.
Non, mais vous avez raison, je suis un peu ronchon.
Un peu ronchon.
En fait. C'est ce que me disait mon ami Philippe Rey tout à l'heure dans son bureau, le directeur de la rédaction. Il me disait, t'es un peu ronchon.
Eh mais allez, on va pas se laisser aller quand même. Une chanson, Pascal, et ça repart. Allez. Tout le monde danse en régie. Allez, Pascal, on se réveille encore avec vos plus belles phrases.
Tapez-moi dessus. Tapez sur nous. Tapez, c'est de notre faute. Est-ce que vous connaissez Brigitte Bardot? Est-ce que tu les aimes, mes fesses?
Ça y est, on a retrouvé le Pascal Pro. Oui, fake news, ouais. Si vous voulez.
Ça, c'était pas aujourd'hui.
La bête, ça y est, mesdames et messieurs, est relancée.
Je m'imagine en boîte de nuit. Là, je danse avec des gens. Je vais au restaurant avant. C'est ce monde d'avant qu'on avait.
Bougez pas trop pour pas vous faire mal non plus. Hein.
Vive le monde d'avant, cher Pascal.
Bravo. Franchement, tous les jours, ce sera le débrief de Laurent Tessier. Et puis, si vous n'avez pas écouté depuis 13h, vous pourrez écouter les auditeurs. Comme ça, ce sera parfait. Madame Flamand est-elle là? Oh, Madame Flamand, je la vois. Elle a passé un bon week-end. 14h26. Sugar Baby Love, ça c'est bien, c'est Roubaix ça. Ça c'est magnifique les Roubaix.
C'est beau.
Ils ont fait qu'un titre. Sugar Baby Love. Après ils sont rentrés à la maison. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT.